pasteur a dit que je suis à la retraite. Mais la Bible dit, il n'y a pas de repos pour le méchant. Alors depuis 7 ans, avec mon épouse, nous voyageons du nord au sud, de l'est à l'ouest, et nous visitons les églises de France dans le cadre de la mission intérieure des assemblées de Dieu. Nous avons visité des centaines d'églises, beaucoup de petites églises dans notre pays de France, contrairement aux méga-églises qu'on trouve dans d'autres continents. Beaucoup de petites églises, parce qu'il faut que je vous dise une chose, d'ailleurs vous le savez, la France, c'est le pays du petit. Vous saviez ça? C'est pas un scoop. En France, par exemple, eh bien, on boit un petit café. On prend une petite bière. On fait une petite sieste. Même s'il y a du longtemps. On fait une petite promenade. Et puis, on rend visite à la petite famille. On passe un petit coup de fil. On cherche un petit boulot. La France, c'est le pays des petites choses. Mais qu'en est-il dans nos petites églises? Mais on retrouve la même chose. Mais souvent, chez moi, le téléphone sonne. Allô, frère de l'Esther, c'est moi, on avance à vous pour une petite mission. J'ai jamais fait de petite mission. Toutes les missions que le Seigneur me confie sont des grandes missions. Dieu est le Dieu des grandes choses. On a pensé à vous pour une petite mission. On a loué une petite salle. Vous comprenez, frère, on n'a que des petits moyens, un petit budget. Alors au programme, on aura des petits chants. Notre petit groupe de musique va interpréter quelques compositions de... Il y aura un petit témoignage. Et puis, vous ferez bien bonjour à la petite famille, hein, on vous attend. J'ai envie de vous dire ce matin, la Bible nous exhorte à ne pas mépriser les petits commencements, mais ce qui commence petit est appelé à prendre de l'importance. Tout ce qui est petit est appelé à grandir. C'est vrai pour une petite plante, soignez-la bien. Elle deviendra un grand arbre, un petit bébé. Nourrissez-le bien et il deviendra grand, comme moi. Une petite église, lorsqu'elle est bien menée, lorsque l'Esprit de Dieu la visite, eh bien, elle est appelée aussi à grandir. La Bible dit, ne crains rien, petit troupeau. Il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Les 12 n'étaient qu'un petit groupe. Quelques temps plus tard, ils étaient au nombre de 120. Et puis en une seule journée, ils sont passés de 120 à 3000. Tout ce qui est petit est appelé à grandir. Notre foi aussi est appelée à grandir. Et nos églises de France, sont appelées aussi à grandir. Et pour qu'elles grandissent, eh bien, il faut que les chrétiens que nous sommes, nous devenions plus entreprenants, plus audacieux, beaucoup plus présents dans la vie quotidienne, plus présents dans la vie de nos cités, plus présents au sein de la société. Et nous avons besoin de devenir des gagneurs d'âmes, des pêcheurs d'hommes, des ambassadeurs du royaume de Dieu. J'aimerais que nous ouvrions notre Bible dans le deuxième livre de Paul aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 5, où cette pensée forte revient, 2 Corinthiens 5, le verset 17, où je lis ces paroles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné quoi? Le Seigneur nous a donné quelque chose de fabuleux. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. N'est-ce pas quelque chose de formidable? Okay. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, On impute en point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Et je rajoute le premier verset du chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Chacun ici a ses occupations. Si vous pouviez venir ici au micro pour vous présenter, on aurait peut-être au micro un prof de maths ou de philo, une infirmière, je ne sais pas, un chauffeur de bus, un plombier, un artisan, des jeunes qui font leurs études, un menuisier, un gardien de prison, une assistante sociale, je ne sais pas. Mais au-delà de nos occupations légitimes, vous qui m'écoutez et moi qui vous parle, nous avons quelque chose, Dieu nous a confié quelque chose de la plus grande importance. Vous et moi, nous sommes les ambassadeurs d'un royaume, du royaume de Dieu. Ni plus, ni moins. Chaque nation a ses ambassadeurs, chaque nation a ses ambassades. On les trouve en général dans les quartiers chics des grandes villes. À Paris, vous n'allez pas dans le premier arrondissement, dans le 19e, vous ne trouverez pas les ambassades, mais si vous allez dans le 8e ou dans le 16e, vous en trouverez quelques-unes. Le royaume de Dieu, lui, fait exception. Ses ambassades sont partout. Chaque assemblée, chaque église est une ambassade de ce royaume et chaque chrétien né de nouveau est un ambassadeur du royaume de Dieu, un ambassadeur de Jésus-Christ. Quel que soit son âge, quelle que soit sa culture, quelle que soit la couleur de sa peau ou sa condition physique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Alors, puisque c'est comme cela, retournez-vous vers votre voisin et dites-lui, Monsieur l'ambassadeur, je vous salue. Madame l'ambassadrice, je vous salue. Ça vous rend joyeux, mais je vais mettre un bémol à votre joie. Parce que le mot ambassadeur vient du mot ambatus. Et l'ambatus, c'était le valet ou l'esclave qui, dans les familles riches, dans les familles bourgeoises, était chargé de faire des commissions. On chargeait ces gens qui étaient des gens de confiance, on les chargeait de porter les messages à droite et à gauche. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous confie à nous qui sommes ici ce matin. Nous sommes les ambatus, j'ai pas dit les cactus, hein, j'ai dit les ambatus. Nous sommes les ambassadeurs chargés d'apporter les bonnes nouvelles d'un royaume, le royaume de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus, Jésus qui sauve, Jésus qui nous réconcilie avec le Père, Jésus qui nous guérit de nos maladies, Jésus qui nous pardonne nos péchés, Jésus qui change notre vie et nous donne de l'espérance. Nous traversons des temps difficiles, on parle partout de la crise, et nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous avons reçu dans ces temps difficiles quelque chose qui devrait faire envie. S'il y a ici une personne qui n'est pas convertie à Jésus-Christ, s'il y a ici une personne qui découvre la foi, s'il y a ici une personne qui n'est pas réconciliée avec le Seigneur, elle peut ressortir de ce lieu avec un trésor. Pourquoi? Parce que nous avons partagé la bonne nouvelle de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Quelqu'un dira ce matin, pasteur, Dieu a des anges. A-t-il vraiment besoin d'ambassadeurs? Les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu. La Bible dit qu'ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Nous qui connaissons la Bible, nous savons qu'un jour, Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, a envoyé un ange chez une jeune fille qui était vierge en lui disant « Tu vas devenir enceinte, le Saint-Esprit va te saisir, tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le message de l'Annonciation a été confié non pas à des hommes, mais à un ange. Un peu plus tard, les années ont passé, un ange a parlé à Pierre dans la prison. Pierre était un ambassadeur de Jésus-Christ, c'était un prédicateur, un apôtre de Christ, et cet homme est emprisonné. Dieu décide que cet homme doit retrouver la liberté. Et Dieu envoie un ange. L'ange pénètre dans la prison, il frappe au côté Pierre qui est endormi, les chaînes tombent de ses mains et de ses pieds, la porte de la prison s'ouvre et l'ange accompagne Pierre jusque dans la rue. Une autre fois, Dieu envoie un ange vers un officier romain. Un homme pieux qui cherchait les choses de Dieu, un homme qui se posait des questions sur l'existence de Dieu, un homme qui recherchait de tout son cœur, qui avait soif, comme quelqu'un peut-être ici pour la première fois ce matin, et Dieu dans son ciel de gloire a vu cet officier qui était en recherche, comme il le voit aussi ce matin. Et là encore, Dieu envoie un ange. Alors on pouvait se dire, mais l'ange qui est envoyé par Dieu vers cet officier romain, cet ange va lui parler de la bonne nouvelle de Jésus, il va l'évangéliser et comme ça il va se convertir. Le travail serait bien fait, pensez donc à un ange envoyé du ciel qui vous parle pour vous retrouver à genoux et vous ouvrez votre cœur aux choses de Dieu. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. L'ange a dit à cet officier romain, envoie chercher Simon Pierre, le chrétien, l'ambassadeur, envoie le chercher, il te dira des choses qu'il faut qu'il entende. Jamais un ange n'a prêché la bonne nouvelle de Jésus, il s'agit là de quelque chose qui est réservé à l'épouse de Christ. Il s'agit là d'une mission qui n'est pas confiée aux anges. La prédication d'évangile, le fait de publier la bonne nouvelle de Jésus, c'est quelque chose qui relève de la responsabilité des chrétiens. Vous dites amen ? Ça veut dire que vous êtes d'accord. La Bible nous affirme que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de son salut, de sa vérité. Et je pose la question, la volonté de Dieu clairement exprimée dans la Bible va-t-elle s'accomplir, oui ou non? Dieu veut que les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient sauvés. Parler vendredi soir ou samedi, oui, vendredi soir, à celles et ceux qui ont suivi la réunion, pensez-vous, je vais leur demander, pensez-vous que la volonté de Dieu va s'accomplir? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que ça va se passer comme ça, oui ou non? Et j'ai demandé que les gens se définissent. Et beaucoup de mains se sont levées en disant oui, ça se passera comme cela. Je voudrais vous poser la question ce matin. Croyez-vous que la volonté de Dieu va s'accomplir? Il y il a moins d'enthousiasme que l'autre soir. En réalité, cela dépend de l'habitude de l'Église. Parce que Dieu veut, mais la volonté de Dieu ne s'accomplira que dans la mesure où les outils que nous sommes, nous allons être disponibles. La volonté de Dieu ne s'accomplira que dans la mesure où les ambassadeurs que vous êtes et que je suis, nous allons nous remettre à parler simplement du Seigneur. Ça ne s'accomplira que dans la mesure où nous allons relever le défi de l'évangélisation. J'aime dire, et je le répète partout, Dieu a donné au monde deux trésors. Dieu a fait au monde deux formidables cadeaux. Le premier, il est là sur la diapo. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il a donné ce qu'il avait de plus beau. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné ce qu'il avait d'irremplaçable. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le premier cadeau de Dieu au monde. Mais il y a un autre cadeau que Dieu fait au monde, et ce deuxième cadeau, c'est l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est le deuxième cadeau de Dieu au monde. Une Église avec des privilèges et des responsabilités. Une Église appelée à fonctionner comme une ambassade. Et lorsque nous passons devant une ambassade, nous remarquons de suite quelque chose de bien particulier. C'est le drapeau qui représente le pays. Si c'est une bannière blanche avec une étoile bleue, vous vous retrouvez devant l'ambassade de quel pays? Une bannière blanche avec une étoile bleue. On est devant le drapeau d'Israël, devant l'ambassade d'Israël. Si c'est un drapeau, je ne sais plus la couleur des lèvres, moi, tiens. Si c'est un drapeau aux couleurs jaune, noir et rouge, ça y est, j'y suis. Vous êtes devant l'ambassade des Belges, l'ambassade de Belgique. Et chaque ambassadeur sort son drapeau pour être reconnu. Il n'est pas admissible qu'une ambassade soit cachée quelque part au fond d'une impasse, derrière une palissade et à l'abri des regards. Ça n'existe pas. Il n'est pas admissible non plus que l'Église de Jésus-Christ, que les chrétiens restent cachés. Jésus disait, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et il ajoutait, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et Jésus ajoute ces paroles, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient. Et laissez-moi vous poser la question ce matin, une lampe. À partir de quel moment commence-t-elle à éclairer l'entourage? À partir du moment où on l'allume. C'est pas une question de temps. Si vous allumez la lumière, elle ne commence pas à éclairer un quart d'heure plus tard. Elle se met à briller tout de suite. Ce qui veut dire que nous n'avons pas besoin d'être convertis depuis 6 mois ou 10 ans pour nous mettre à parler du Seigneur comme des ambassadeurs parlent de leur pays. Mais dès que nous avons rencontré le Seigneur, nous devenons ses ambassadeurs, nous devenons des instruments qui pourront colporter la bonne nouvelle de Jésus. C'est ce qui s'est passé avec la femme de Samarie que Jésus a rencontrée au bord du puits de Jacob. La Bible nous dit que cette femme a été touchée dans son cœur. Elle a abandonné sa cruche près du puits et a été voir les gens du village en disant « venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Elle ne connaissait pas grand-chose sur la doctrine, il n'y a pas longtemps qu'elle connaissait le Seigneur, elle n'avait jamais mis les pieds dans une église évangélique, mais il y avait quelque chose dans son cœur et elle a voulu le partager avec les autres. Il est temps, mes frères et sœurs, que les chrétiens que nous sommes, nous sortions notre drapeau. Il est temps que les ambassadeurs que nous sommes, nous devenions plus entreprenants, plus audacieux et peut-être aussi plus présents dans la vie de nos cités. Ne soyons pas comme Joseph d'Arimathée qui était disciple de Jésus sans que personne le sache. La Bible nous dit qu'il était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs. Il avait peur, cet homme, peur du qu'en dira-t-on. Personne ne savait qu'il était disciple de Jésus-Christ, comme c'est triste. Mais c'est peut-être votre situation. Vous êtes chrétien déjà depuis quelque temps, mais personne dans votre entourage n'a jamais entendu quel est votre témoignage, quelle est votre expérience. Peut-être que quelques-uns parmi vous ce matin, parmi nous ce matin, nous sommes comme Joseph d'Arimathée. Nous souffrons du syndrome de Joseph. Mais nous n'avons pas le droit de nous taire. Osons parler du Seigneur. La Bible dit de Joseph d'Arimathée qu'il est sorti de sa réserve. Il est allé voir Pilate, le gouverneur romain, et il lui a demandé le corps de Jésus pour le descendre de la croix et le mettre au tombeau. Il a osé faire pour Jésus mort ce qu'il n'avait jamais osé faire pour Jésus qui était vivant. Ne lui ressemblons pas. Et si nous lui ressemblons, eh bien, réalisons ce matin que le Seigneur a fait une promesse. Il savait que ce serait quelque chose de difficile et Jésus a fait cette promesse, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il arrive que les ambassadeurs aient à dire des choses difficiles. C'est arrivé à Jérémie, il avait reçu du Seigneur une mission difficile, dénoncer les péchés de son peuple, et on s'est moqué de lui, on l'a ridiculisé, on l'a menacé, et Jérémie a dit ces paroles tristes, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus du Seigneur, je ne parlerai plus en son nom. C'est trop difficile, il y a trop de problèmes, on s'est moqué de moi, alors c'est terminé, je ne parlerai plus en son nom, chaque jour je suis la risée du peuple, fini. Mais c'était impossible, il lui était impossible de se taire, écoutez-le parler, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Ce n'était pas une petite flamme de bougie, c'était quelque chose qui brûlait à l'intérieur. Il n'arrivait pas à se taire. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Je me force de le contenir. Ça n'est pas possible. Voilà mes amis qui m'écoutaient. Voilà pour vous et pour moi qui vous parle. Voilà la chose indispensable. Il faut que brûle dans notre cœur ce feu, ce feu, ce zèle, ce feu dévorant. Jésus nous en a fait la promesse. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit que la promesse s'est réalisée. Des langues semblables à des langues de feu, oh combien je voudrais être là, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Voilà pour le côté spectaculaire, ils venaient de faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit leur avait été donnée et ils se sont mis à parler en diverses langues. Mais ce n'était pas là l'essentiel, comme je le disais avant-hier soir. Celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait?
Il s'édifie lui-même, il s'entretient, ça lui fait du bien, mais c'est de la maintenance. Vous allez dire, mais celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il édifie aussi l'Église. Ça lui arrive de prophétiser, celui qui prophétise, ça s'y fait. Il édifie, il exhorte et il consomme. Il fait du bien au peuple de Dieu. C'est quoi? C'est de la maintenance. Ça n'est pas l'essentiel. C'est indispensable, je vous l'accorde. Ça fait beaucoup de bien, je vous l'accorde. Mais l'essentiel est ailleurs. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Et il n'a pas dit que nous parlerions en langue. Mais il a dit que nous serions ses témoins. Voilà pour l'essentiel. L'essentiel, c'est que le jour de la Pentecôte, ils sont devenus des ambassadeurs audacieux. Jésus avait promis la venue du Saint-Esprit dans ce contexte-là. Vous serez des témoins en Judée, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit a été promis et envoyé dans le cadre de la mission qui a été confiée par le Seigneur à l'Église, et cette mission consiste à évangéliser le monde, même ici à Nantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais si la mission de l'ambassadeur est d'être le porte-parole du gouvernement qu'il représente, il n'a pas le droit de se taire, je vous répète, un ambassadeur silencieux est un ambassadeur inutile, voire même quelque peu dangereux. Nous l'avons vu tout à l'heure, Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est quelque chose de sérieux. Dieu a mis en nous une parole qui peut réconcilier un homme avec son Créateur. Et voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de nous taire. Parce que le fait de se taire, c'est de la non-assistance à personne en danger. Nous véhiculons quelque chose, et quelque chose qui peut avoir une influence sur le comportement d'une personne, quelque chose qui peut changer la destinée d'une personne, quelque chose qui peut le mettre sur le bon chemin. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Sommet de ce terre, les premiers chrétiens étaient des ambassadeurs courageux, et ils ont dit, mais jugez-en vous-même. Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. C'était de bons témoins, c'était de bons ambassadeurs. Je disais jeudi, vendredi soir, le problème de l'Église de France, il est là. Dans ces quelques statistiques, vous pouvez juger de la situation française. Dans bien des endroits du monde, l'Église connaît un essor absolument spectaculaire. En Amérique latine, en Extrême-Orient, en Afrique, dans les pays de l'Est, l'Église grandit. Elle est comme une gigantesque multinationale qui grandit, qui grandit, qui grandit par l'assistance du Saint-Esprit. Mais la situation n'est pas comme cela en Europe. Et elle est tout à fait médiocre en France. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les Français, ce n'est pas que Dieu n'ait pas de projet pour l'Église de France. Le problème n'est pas chez lui, mais le problème est chez vous. Il est chez nous. Le problème, il est en bas. 69% des chrétiens de France, ça veut dire presque les trois quarts, ne parlent jamais de Jésus. 27% le font de temps à autre, lorsque les circonstances sont favorables, et 4% seulement des chrétiens font de l'évangélisation leur priorité. Cela commence leur journée le matin par un petit culte personnel. Ils disent, Seigneur, aujourd'hui, permets, s'il te plaît, que je partage mon espérance, ma joie, mon assurance, que je partage quelque chose qui te concerne, avec des gens que tu mettras sur ma route.
et au fil du temps qui passe, au fil des heures qui s'écoulent, ceux-là sont des ambassadeurs. 4%, c'est pas grand-chose. On est combien de chrétiens en France? Les chrétiens, les nouveaux, je parle pas seulement des pentecôtistes, hein, mais pentecôtistes, baptistes, salutistes, jusqu'aux bouddhistes, etc. Hein, toute la grande famille évangélique. On est combien, là? 400 000. 400 000 multiplié par 4%, ça fait combien? 160 000? 16 000. Voilà la réalité française. 16 000, une petite armée de 16 000 soldats. Oh, vous direz, rien n'empêche le Seigneur de sauver au moyen d'un petit nombre. C'est vrai. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit, tout ce qui est petit est appelé à grandir. Faut que l'Église de France se décoince. La France, c'est un pays laïque, le pays de la laïcité. Tu crois ce que tu veux en France. Tu crois tout ce que tu veux. Mais il est de bon ton de ne pas en parler à qui que ce soit. Et ça, mes frères et sœurs, c'est une mentalité dont il faut se séparer. La France, c'est le pays du petit, mais Dieu est le Dieu des grandes choses. Et c'est vrai, rien ne l'empêche de sauver le moyen d'un petit nombre. Mais le désir du Seigneur, c'est que le petit nombre grandisse de plus en plus. Vous dites encore Amen, vous êtes tous là. Quels sont ceux qui sont toujours là ce matin?
Amen.
Vous êtes encore là, levez la main. Hein?
Amen.
Et dites à la personne à côté de vous, t'as pas le droit de dormir. Alors je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien. Les ambassadeurs restent toujours des étrangers. Dans le pays où ils exercent leur mission, ce sont quand même des étrangers. Ils appartiennent à un autre royaume. Et c'est dans cet esprit-là que l'apôtre Pierre écrira aux chrétiens de son temps, « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Vous l'avez entendu, notre âme est en guerre. Les convoitises du monde, ça agresse notre âme d'une façon continuelle. Alors il faut bien faire attention et ne pas leur ouvrir la porte de peur de devenir des chrétiens médiocres, des chrétiens charnels et qui attristent l'Esprit de Dieu. Un ambassadeur ne passe jamais inaperçu. On le regarde vivre, on l'observe. On analyse ses paroles, il dit quelque chose, le lendemain, on entend ce qu'il dit sur toutes les chaînes de télé. Au travers de leur comportement, c'est le royaume qu'ils représentent qui est jugé. Imaginons un peu l'ambassadeur des États-Unis. Vous le rencontrez dans les rues de Paris, vous vous demandez si c'est bien lui parce qu'il titube. Il est complètement mal habillé, il y a sa cravate qui pend, et puis il y a ses cheveux qui sont ébouriffés, et puis il marche plus droit, il est obligé de s'appuyer sur les murs, il est ivre le gars. Et qu'est-ce que vous allez dire? Mais c'est l'ambassadeur des États-Unis. Et oui, je reconnais sa voiture là-bas, avec le fanion et corps diplomate. Oh, oui, c'est bien l'ambassadeur des États-Unis. Eh bien, ils sont bons, les Américains. Voilà. C'est ça que nous allons dire. Au travers d'un seul individu, on juge le pays qu'il représente. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il faut en tant qu'ambassadeur savoir que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Mais faisons attention, nous avons, une attitude qui glorifie le Seigneur, mais il y a aussi une attitude qui attriste l'Esprit de Dieu et qui fait ricaner l'entourage. Soyons comme les premiers chrétiens, la Bible dit qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. C'étaient de bons ambassadeurs. Ils colportaient la bonne nouvelle, ils parlaient d'amour, ils parlaient d'espérance, ils parlaient de pardon. Et vous serez d'accord avec moi, les ambassadeurs sont des gens qui ont été choisis. On les choisit sur la base de leur diplôme. On les choisit
en fonction de leurs capacités, parfois de leur milieu social. Mais les ambassadeurs que nous sommes, les ambassadeurs du royaume de Dieu, sont recrutés en fonction d'autres critères, bien sûr. Parmi vous, écrivez l'apôtre Paul, parmi vous qui croyez, il n'y a pas beaucoup de gens bon chic, bon genre. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses vices, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas pour confondre celles qui sont hauts, les choix de Dieu. Les choix de Dieu sont des choix étonnants. En voulez-vous une preuve? C'est que nous sommes là. C'est étonnant quand même. Les choix du Seigneur. Imaginez que j'ai l'intention de créer une entreprise et je recherche des collaborateurs. Alors voilà Simon-Pierre qui se présente. Je ne voudrais pas un homme comme lui, trop dangereux, trop violent. Un homme qui démarre au quart de tour et qui est capable de prendre une épée pour couper les oreilles des gens. Ce n'est pas qu'il avait appris le maniement des armes d'une manière précise et qu'il voulait juste couper l'oreille de Malchus, ce n'est pas ça. Ce qu'il voulait faire, c'était couper en deux. Alors Malchus a tiré sa tête sur le côté et on lui a juste enlevé un petit bout. Un homme impulsif, un homme violent, mais c'était le choix du Seigneur. Et le Seigneur a changé le caractère de cet homme. Et que penser des douze qui se chamaillaient pour savoir qui était le plus grand? Moi, je ne fais pas des gens comme cela. Et que penser encore de ces deux grands gaillards qui vont se servir de leur maman parce qu'ils voulaient les premières places? Ils n'avaient pas assez de caractère pour faire la demande de mère. Alors ils ont dit à maman, qui m'a demandé pour nous, maman? Alors la maman s'approche de Jésus. Seigneur, j'ai une demande à te faire. Ordonne que mes deux fils se voient, et les voilà les deux grands bénis, sont la prière. Ordonne que mes deux fils se voient, soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Je ne voudrais pas des gens comme ça, moi, dans mon équipe. Et vous? Mais c'était le choix du Seigneur. Et vous qui m'écoutez ce matin avec beaucoup de plaisir, hein, je crois, eh bien vous êtes le choix du Seigneur.
Oui.
Malgré, j'allais dire votre mauvais caractère, mais je ne vous connais pas, je n'ai pas le droit de parler comme ça. Malgré votre passé, malgré vos limites, malgré votre histoire, malgré les tribulations par lesquelles vous êtes passés, malgré les soucis qui sont les vôtres aujourd'hui, vous êtes le choix de Dieu. Alors tournez-vous vers la personne à côté de vous et plantez votre index sur sa poitrine en disant, tu es le choix de Dieu. Jésus disait aux douze, parce que les douze, quand ils ont vu les miracles du Seigneur, eh bien ils se sont frappés sur l'épaule les uns les autres en disant, on a fait le bon choix, on a fait le bon choix, on a bien fait de choisir de suivre Jésus. Et Jésus met un bémol à leur choix en disant, attendez les gars, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. C'est moi qui vous ai choisi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Pourquoi faire? Afin que vous saviez que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il les avait choisis pour qu'ils soient des ambassadeurs efficaces. Quel privilège! J'ai remarqué que les ambassadeurs sont des gens riches. Ils ne pointent pas la NPE. Ils ne touchent pas la RMI. Non, non, ils n'ont pas besoin de cela. Ils sont des gens riches, ils ne manquent de rien. Ils ont un beau logement, une belle voiture avec un chauffeur, de beaux habits, un beau train de vie et un bulletin de salaire qui n'a rien à voir avec le mien, ni avec celui de votre pasteur. Mais qu'en est-il des ambassadeurs du royaume de Dieu? Ah, nous avons tous des belles voitures. Enfin, nous n'avons pas tous des chauffeurs pour les conduire.
Quand Jésus a envoyé les siens sans bourse, sans sac et sans souliers, il a posé la question, « Avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils ont répondu quoi ? Ils ont répondu, « Nous n'avons manqué de rien. Nous, les ambassadeurs de Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en lui. » Et la Bible dit ces paroles qui sont au tableau, « En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. En Jésus, nous avons un plein salut.
Amen.
Nous avons un plein pardon.
Amen.
Nous avons une pleine assurance.
Amen.
La Bible dit encore que nous avons tout pleinement en lui.
Amen.
Et ça me rappelle une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui aimait bien les bijoux. Seulement, voilà, ça coûte cher les belles perles, les rubis. Elle n'avait pas les moyens d'acheter quoi que ce soit, alors elle se contentait de passer dans les rues piétonnes de la ville où elle vivait, et elle passait devant la vitrine d'une bijouterie qui était tenue par un bijoutier célibataire. Ça y est, vous avez compris la suite. Elle s'arrêtait toujours, la belle jeune fille, devant cette vitrine, et elle regardait les bijoux sans savoir que derrière le rideau, le bijoutier la regardait et il en était tombé amoureux. Oh, il disait les plus belles que mes belles perles. C'est une perle de grand prix. Il était tombé amoureux. Et un jour, la jeune fille a croisé le regard du bijoutier. Alors, elle a compris. Seulement, comment est-ce que ça pouvait aller plus loin, cette affaire-là? Il a fait preuve d'audace, le bijoutier. Il est sorti sur le pas de la porte. Il a dit, mademoiselle, donnez-vous donc la peine d'entrer. Elle a dit, monsieur, j'ai pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Mais qui ça vous engage à rien? Entrez donc, je vais vous faire voir ma plus belle collection. Alors, la jeune fille est entrée dans la boutique. Et puis le bijoutier a ouvert son coffre-fort. La sortie, c'est le plateau avec les plus beaux bijoux. Il a mis ça sur la table. La jeune fille a regardé un peu. Alors il a pris son courage à deux mains, le bijoutier. Il a dit, mademoiselle, choisissez donc dans ma boutique. Choisissez le diamant, choisissez la perle, choisissez le bijou qui vous plaît le plus. Je vous l'offre de bon cœur. Waouh, c'était une déclaration, hein. Savez-vous ce qu'elle a fait, la jeune fille? Elle n'y est pas allée par quatre chemins. Elle a regardé le bijoutier, elle a planté son doigt sur sa poitrine, elle a dit, je vous choisis, vous. Elle avait fait le bon choix. Parce qu'on choisit son bijoutier, elle est devenue propriétaire de la bijouterie. Mais ça, c'est notre histoire. Parmi les privilèges de l'ambassadeur, soulignons le fait que ce sont des gens protégés. Ils bénéficient de la fameuse immunité diplomatique. On n'a même pas le droit de contrôler leur bagage à la douane. Me souviens, j'ai travaillé pendant un temps à la frontière franco-belge avant d'être pasteur. C'était pas l'heure du marché commun, mais quand il y avait la barrière et qui barrait la route et les voitures s'arrêtaient, sauf les voitures diplomatiques. Parce que quand elles arrivaient, le chauffeur faisait l'appel de phare, le douanier reconnaissait le fanion, et hop, il levait la barrière et la voiture passait à toute allure. Un jour, la barrière est restée fermée, et une voiture diplomatique s'est présentée là devant le poste de frontière, et le douanier a dit au chauffeur, « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» Et le chauffeur, il était étonné, il a dit, « Mais vous n'avez pas vu le devant de la voiture ?» Alors le douanier est allé voir, oh là là, il s'est excusé, il a levé la barrière et la voiture est partie. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur jouissait d'une immunité diplomatique, on n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit, on ne peut pas le traduire même devant le tribunal. Dès qu'il est en possession de ses lettres de créance, il bénéficie d'une protection récente, d'une protection spéciale, et j'en passe. Mais les ambassadeurs du royaume de Dieu jouissent des mêmes privilèges. Il n'y a plus de condamnation, dit la Bible, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. Si Dieu est pour nous,
Qui sera contre nous? Vous avez la réponse?
Amen.
Personne. Qui accusera les ambassadeurs que nous sommes? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation?
Non.
L'angoisse?
Non
plus. La persécution? Non plus. Ni la faim, ni la soif, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée. J'ai l'assurance, disait l'apôtre, que rien ni personne, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais le statut d'ambassadeur n'est pas une garantie tout risque. Vous avez appris par les médias comment certaines ambassades sont parfois saccagées, et c'est là un risque que chaque ambassadeur assume, et les chrétiens ne font pas exception à la règle, bien sûr. La Bible le dit clairement, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Chaque ambassadeur doit faire face à des situations difficiles, et Jésus a pris soin de prévenir ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cette histoire, je parlais de ce garçon qui était musulman et qui s'est converti dans une de nos assemblées du nord de la France. Ça s'est passé en semaine. C'est un musulman qui est entré à la réunion de prière. Un homme ouvert, un homme tout à accessible. Et ce soir-là, il a compris la vérité et il s'est converti. Rempli de l'Esprit de Dieu, il est rentré à la maison, ivre de joie, fraîchement converti, il s'adresse à son père en disant « Papa, j'ai quelque chose à te dire, depuis ce soir je suis chrétien, je sais que Jésus est le Fils de Dieu et il est devenu ce soir mon sauveur. » Le père était serré, il a fait répéter la chose, il s'est levé. Et puis, sans que son fils, qui s'appelle Meki, ne s'y attende, il lui a envoyé le poing de toutes ses forces. Il a envoyé le poing sur la figure de son fils et il lui a cassé le nez. Et quelques heures après sa conversion, Meki s'est retrouvé à l'hôpital. Il y est resté toute la nuit, avec le nez cassé. Et le lendemain, il a dit à son père, « Papa, tu peux me couper en rondelles. » Le dernier morceau dira encore que Jésus est Fils de Dieu.
Amen.
Et Dieu est le Sauveur dont j'avais besoin. C'est beau. Mais en guise de conclusion, je pose la question suivante. Qu'y a-t-il de plus important pour vous qui êtes là ce matin? Est-ce que ce sont les privilèges de l'ambassadeur ou les responsabilités de l'ambassadeur? Nous parlons souvent de nos privilèges et ce matin je vous ai écouté, loué le Seigneur et j'ai entendu, merci Seigneur parce que tu es avec moi, merci Seigneur parce que tu me guéris, merci Seigneur parce que je t'ai connu, merci Seigneur pour les privilèges, voilà ce qu'on a entendu. Dans nos rassemblements chrétiens, dans nos églises de France, nous mettons beaucoup l'accent sur nos privilèges, mais en parallèle avec nos privilèges, il y a nos responsabilités. C'est comme une voie ferrée. Combien de rails la voie ferrée déjà? Il y en a deux. Quel est le rail que vous préférez? Celui de droite ou de gauche? Les deux sont de la même importance. Mais voyez-vous, le problème en France, c'est que le rail des privilèges, celui-là, il brille comme un sous-vêtre. Nous y attachons beaucoup d'importance, alors nous l'entretenons bien. Et le rail des responsabilités, celui-là, il est complètement rouillé. C'est ce qui doit changer dans notre pays. C'est vrai que l'ambassadeur a des privilèges, mais les privilèges sont à la hauteur de ses responsabilités, et les responsabilités sont à la hauteur de son privilège.